Super. Bon après-midi à tous. Je vais vous inviter à vous lever avec moi pour la lecture de notre texte d'aujourd'hui qui se trouve en Philémon. Et notre texte va porter sur les trois premiers versets, mais pour avoir une meilleure idée du texte, ce n'est que 25 versets, on va le lire au complet ensemble. Alors, Philémon, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence, au nom de l'amour, que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage, dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, c'est un véritable plaisir d'être à nouveau avec vous, de vous retrouver aujourd'hui pour et pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et vous savez, c'est une grâce d'y plonger les regards, n'est-ce pas? Mais c'est une grâce toute particulière de la proclamer. Parce que, vous savez, la parole de Dieu, c'est bien plus qu'un bon livre. C'est la révélation du Dieu Trine, de son être, de son œuvre, pour le salut de son peuple. Sa valeur est donc éternelle. Comme notre confession le dit, la parole est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance à salut, de foi et d'obéissance. Et un petit peu plus loin, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie, en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable. Indispensable. Mais bien qu'il y ait une dimension tout à fait, on pourrait dire, intellectuelle à la parole, ou qu'il y ait une connaissance à acquérir, la parole, c'est bien plus que ça. C'est indispensable. Non seulement en Christ, on trouve un puits infini de sagesse et de connaissance à salut. Mais la parole produit aussi en nous un fruit qui est enraciné dans la même raison pour laquelle Christ s'est fait chair, l'amour. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, on va débuter une série sur l'épître à Philémon. Je l'ai choisi parce que, en fait, Philémon, ou l'épître à Philémon, c'est en quelque sorte une étude de cas à la mise en application de la bonne doctrine. La parole de Dieu nous révèle la bonne doctrine, et cette bonne doctrine-là a, entre autres, pour effet de nous informer comment vivre ici-bas, comment mener notre pèlerinage en chemin vers notre cité céleste. On va donc étudier Philémon, et si Dieu nous l'accorde, on pourrait continuer avec l'épître aux Colossiens, parce qu'il s'agit en fait du même contexte global. Paul a écrit ces deux lettres-là en même temps. Et en fait, il les a écrits quand il était emprisonné à Rome. Il les a fait parvenir ensemble à l'église de Colosse, qui s'assemblait en fait dans la maison de Philémon. La lettre dite aux Colossiens s'adresse de façon générale à toute l'assemblée. Et Paul y expose de manière vraiment magnifique, profonde et majestueuse la prééminence du Christ en toutes choses. Et il vise à porter nos regards vers le Christ qui est assis là-haut, à la droite de Dieu. Mais pour ensuite exhorter sur cette base-là à porter du fruit. Et par exemple, en sanctifiant les relations interpersonnelles. Et en ce sens-là, la lettre dite à Philémon s'adresse certainement à toute l'assemblée, qui est dans sa maison justement, mais elle s'adresse aussi de manière toute particulière et personnelle à ce frère-là, Philémon, qui sera exhorté, avec tous, à mettre en pratique la bonne doctrine qu'il a professée. Donc, on va débuter l'exposition de notre texte, qui est en fait une introduction à l'épître, mais qui va nous aider à beaucoup mieux comprendre aussi le contexte de cette épître, la fibre. Donc, les deux premiers versets, plus précisément, c'est l'adresse de Paul à Philémon et aux autres. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Donc, comme à l'habitude, Paul débute en se nommant, dans ce cas-là, avec Timothée, pour informer ses destinataires de la part de qui vient sa lettre. Right? Mais il s'introduit cette fois-ci en tant que prisonnier de Jésus-Christ. Dans la majorité des cas, Paul introduit ses lettres en tant qu'apôtre. Et c'est en fait ce qu'il a fait avec la lettre jumelle aux Colossiens. On lit qu'il est écrit « apôtre » et non « prisonnier ». Mais il choisit délibérément de se présenter, dans ce cas-là, comme prisonnier. Et à la lumière de la raison pourquoi il écrit cette lettre-là, ben son choix de mots est vraiment notable. Il écrit au sujet d'un dénommé Onésime, comme on a lu, qui en fait, lui, c'est l'esclave de Philémon. Et il s'est enfui. Et dans sa fugue, il s'est dirigé à Rome, où se trouvait aussi Paul, qui était emprisonné. Et on sait que Paul profitait de vraiment toute occasion pour prêcher l'Évangile, même dans ses chaînes. Et que c'est en fait par ce moyen-là qu'Onésime a reçu l'Évangile et s'est converti. Et ensuite, il est demeuré auprès de Paul, au point même d'être vu comme son fils spirituel. Mais on voit qu'en fuguant, Onésime avait, et on l'a lu, vraisemblablement causé du tort à Philémon, et il l'avait possiblement volé. Déjà, dire une telle chose aujourd'hui peut nous faire sceller les oreilles, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait se demander comment est-ce que un esclave pourrait être blâmé de quelque tort que ce soit, ou au minimum de s'être enfui, au minimum. Et c'est un sujet qu'il faut dire qui est particulièrement sensible aujourd'hui avec toutes les bonnes raisons qu'il peut y avoir. Cependant, le but de la communication de Paul, ce n'était pas d'adresser directement le sujet de l'esclavage. Il l'adresse pourtant, mais ce n'était pas son but direct. Et si je me permets de faire une parenthèse, si quelqu'un aimerait discuter de ce sujet-là qui est important, n'hésitez pas à venir nous voir, ça me ferait plaisir. Je suis sûr qu'il y a d'autres frères aussi qui pourraient en parler. Mais donc, son but n'était pas de commander à Philémon de relâcher Onésime de son emploi servile. Ce n'était pas non plus d'excuser Onésime. Mais c'était plutôt de susciter en Philémon un des fruits qu'il promouvait dans son épître aux Colossiens, la sanctification des relations interpersonnelles. Il l'exhorte à le recevoir, non comme son esclave, mais comme son frère bien-aimé en Christ Jésus. Alors, quand Paul s'introduit comme prisonnier plutôt qu'apôtre, Paul fait deux choses. Premièrement, sachant que, selon la loi romaine, Philémon aurait droit de faire ce qu'il veut avec Onésime. Et comme le commente Martin Luther, Paul laisse de côté son autorité apostolique pour exhorter Philémon à ne pas agir selon ses droits sociaux, mais de s'en décharger lui aussi à son exemple. Il lui demande cet exemple-là en se nommant et en s'identifiant comme lui-même un prisonnier pour la cause du Christ. Et lui montre cet exemple-là, disant, comme on l'a lu, de ne pas exercer ces droits-là, que la loi lui permet de faire, mais de suivre la règle de l'amour qu'on trouve en Christ. Mais deuxièmement, comme il le démontre tout au long de l'Épître, plutôt que de faire appel à son autorité apostolique, il s'humilie par condescendance en s'identifiant lui-même comme étant dans les chaînes, comme tel que dit, mais pour faire appel à l'amour qui est versé dans le cœur d'un enfant de Dieu et qui se doit de diriger ses pas. Il ne s'adresse pas à Philémon en vertu de son autorité légitime ou d'une obéissance qu'il peut exiger de sa part, mais plutôt en tant que frère et dans le but de susciter en lui l'initiative de faire ce qui honore le Seigneur. Poursuit ensuite en nommant Timothée comme frère et Philémon comme leur bien-aimé et compagnon d'œuvre. Encore une fois, Paul s'abaisse lui-même en élevant premièrement Timothée à titre de frère, comme son égal, mais il élève aussi Philémon à titre de bien-aimé et compagnon d'œuvre, lui aussi comme leur égal. Et il faut comprendre, Paul, c'est l'apôtre qui a écrit la plupart des lettres du Nouveau Testament et qui, après le Christ, si on peut dire ça comme ça, est nettement le plus grand théologien de l'histoire, si on peut appeler Christ un théologien. Il n'y a personne comme Paul. Il n'y a personne comme lui. Mais il décide tout de même de s'abaisser, de se condescendre et de faire Philémon et son fils comme son frère. Et Timothée, lui, justement, est un enfant spirituel chéri de cet apôtre-là et un évangéliste de l'ère apostolique. Il n'y en a pas deux comme Timothée non plus. On pourrait dire peut-être Tite, mais c'est ça. Donc, l'adresse de Paul les met les trois au même niveau, au nom de l'amour, étant tous compagnons de la même œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de Paul. Ce n'est pas l'œuvre de Timothée, mais c'est l'œuvre du Christ. Il est leur frère, malgré qu'il est leur apôtre. Il ne brandit pas son titre, mais il les élève à leur égal, à son égal. Ils sont tous compagnons de la même œuvre, la cause du Christ. Et non seulement il les met tous au même niveau, mais il inclut même Philémon dans sa familiarité avec Timothée, son fils bien-aimé. On peut donc voir transparaître à travers ces mots-là, Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, un amour véritable et une affection sincères, surtout en considérant l'ensemble de l'épître. Et ensuite, il s'adresse à la sœur Apphia, qui est probablement l'épouse de Philémon, en fait, et Archippe, aussi leur compagnon, qui lui est sans doute un ancien de l'église de Colosse. Et fort probablement, c'est le seul autre ancien qui est présent. Parce qu'on sait que l'ancien qui a fondé l'église de Colosse, c'est Épaphras, et à ce moment-là, il est emprisonné avec Paul à Rome. Il y a des fortes chances que Philémon soit aussi un des anciens, à cause que c'est un compagnon de combat, et aussi que l'église est dans sa maison. Donc, il y aurait Philémon et Archippe comme anciens à ses côtés. C'est le seul autre. Donc, il s'adresse à Apphia, sa femme, Archippe, l'autre ancien, on pourrait dire les anciens, et ensuite à toute l'assemblée. La femme de Philémon, des anciens, toute la congrégation sont nommés. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, le sujet n'était pas strictement privé. C'est vrai que la lettre est bien personnelle et elle sonne vraiment personnelle, n'est-ce pas? Mais se devait néanmoins d'être rendue publique à l'Assemblée, dans ce cas-ci, d'autant plus que le lieu du rassemblement, eh bien, c'est chez Philémon et Apphia. Et additionnellement, l'ordre choisi par Paul est bien important. Il commence volontairement par Philémon et sa femme, qui sont un. Il ne les sépare pas. Il nomme sa femme après lui. Et si Onésime était pour revenir vers la famille, eh bien c'était nécessaire que Apphia soit incluse dans l'appel. Et Archippe, justement, un des anciens, probablement le seul autre ancien, lui qui est redevable envers le Seigneur en tant que berger, et même collègue de Philémon, probablement, se devait d'être inclus aussi. L'ensemble de la congrégation se devait aussi d'être mis au courant, parce que l'accueil d'Onésime allait cette fois-ci être en vertu de sa nouvelle identité. Ce n'était plus le serviteur inutile d'autrefois, mais ils allaient le recevoir comme un pécheur racheté, repentant, justifié, adopté et sanctifié. L'assemblée devait être incluse, parce qu'il recevait maintenant en tant que frère et même en tant que membre s'il y restait. Et Onésime allait arriver peu de temps après que la lettre arrive de leur côté. La congrégation devait donc être mise au courant, mais ce n'était pas pour contraindre Philémon à obéir à une exhortation à cause d'une genre de pression sociale. C'était loin de ça. Mais c'était plutôt à cause de l'ordre qui se doit d'être pratiqué dans l'Église. C'est-à-dire que la congrégation avait aussi son mot à dire sur la réception d'un membre. Et c'est en fait une mise en pratique de ce qu'on appelle le congrégationalisme. Que je vous ai parlé d'autres termes, mais qu'on croit en fait être le mode biblique du gouvernement ecclésial. Et la situation est adressée à la famille concernée, mais est informée par les pasteurs. Dernièrement, on a eu la réception de deux membres, n'est-ce pas? Et comme vous avez vu, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait le dimanche qui a suivi leur arrivée. Il y a eu un certain ordre qui a été fait. Et les anciens qui sont ceux qui sont responsables avant tout de leurs âmes et de qui est admis et exclu, ont fait leur travail préliminaire. Et ont rencontré ces jeunes hommes ont pu peser leur témoignage. Mais en même temps, l'ensemble de l'Assemblée, ont eu la chance de leur parler, de les rencontrer, de voir ce, eux aussi. Et il y a eu bien assez de moments, de temps, pour, s'il y avait quelque chose à adresser, les anciens étaient disponibles. Donc, bien qu'il y ait une action préliminaire des anciens, l'ensemble de la congrégation a son mot à dire. Et donc, comme je disais, la situation est adressée à la famille concernée en premier, mais informée par les pasteurs aussi. Pourquoi ils se doivent d'être informés? Parce que c'est eux qui dirigent, qui traitent de la situation, prennent soin des hommes, exhortent et édifient, guident dans la voie de la repentance, conseillent dans les voies de la sagesse. Ils sont un instrument de sanctification et articulent la bonne doctrine avec ses applications pour aider les saints à vivre coram Deo, devant la face de Dieu. Ils accomplissent, encore une fois, le travail primaire d'éprouver le témoignage d'un arrivant. Et quand ils peuvent reconnaître les fruits, ils les présentent à l'Assemblée, où ils les proposent pour réception en tant que membres. C'est-à-dire en tant que membres officiels du corps local, et en alliance les uns avec les autres, devant Dieu. C'est premièrement de la responsabilité des anciens, de recevoir et d'exclure des membres dans l'Église locale en termes d'exécution. Mais selon l'ordre biblique, cette responsabilité-là revient aussi à l'Assemblée. C'est pourquoi, quand on reçoit un membre de notre Assemblée, bien les anciens... Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis allé de l'avant sur mon texte. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a cet ordre-là dans son adresse. La famille concernée, les anciens et l'ensemble de l'Assemblée. N'est-ce pas? Les anciens font partie de l'Assemblée. Mais ils sont ceux qui dirigent le pas dans ceci. Okay? Donc voici l'ordre qui est important à mentionner. On voit dans l'arrière-plan de notre texte que l'Église de Colosse au complet, c'est-à-dire l'ensemble des membres, sont inclus dans son adresse, suite à la famille immédiate concernée, parce que la congrégation est leur famille spirituelle. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il condescend par amour, il s'identifie avec ses propres chaînes pour l'Évangile, pour rejoindre Philémon, son bien-aimé, au sujet d'Onésime, un esclave, qui est maintenant devenu son fils. Paul, l'apôtre Paul, s'humilie et se condescend pour rejoindre son frère au sujet d'un esclave qui est devenu son fils. Il agit de cette manière-là, en s'adressant à tous, pour faire appel à l'amour qui est versé dans le cœur des enfants de Dieu et d'y voir un fruit. Et ça nous rappelle les premiers versets du chapitre 5 de la lettre de Paul aux Romains. Lettre qui est magnifique, magnifique présentation de son évangile. Et chapitre 5, les premiers versets nous parlent de la justification. Et on lit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement ça, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La condescendance de Paul et son intercession pour un esclave rebelle comme Onésime, par amour et l'incluant maintenant dans sa famille, nous illustre en fait la médiation et l'intercession du Christ pour de pauvres pécheurs comme nous. Dans les mots de Matthew Henry, nous, comme Onésime, étions rebelles au service de Dieu et lui avions causé du tort dans ses droits. Mais Jésus-Christ nous trouve et par sa grâce œuvre un changement en nous, puis intercède pour nous auprès du Père, afin que nous soyons reçus à nouveau dans sa faveur et sa famille et que les offenses du passé soient pardonnées. La grâce de sa médiation et de son intercession en notre faveur nous a accordé la réconciliation, la paix avec Dieu le Père. Et Paul poursuit son introduction avec un souhait ou une salutation, où on lit au verset 3 « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ce souhait-là n'est pas banal. On l'a vu un petit peu la dernière fois lorsqu'on a passé à travers les premiers versets de Philippiens. C'est jamais banal, on doit s'y attendre. Mais c'est vrai qu'il a l'habitude, Paul, d'introduire ses lettres de cette façon-là, dans les mêmes mots. Mais il ne faut pas croire que Dieu n'a qu'inspiré de simples formalités. Bien sûr que l'apôtre est formel, et c'est bien correct, mais ce n'est pas que ça. Chacun des mots utilisés est lourd d'intention et est inspiré du Saint-Esprit, en fait. L'apôtre prépare, en fait, son exhortation qui va suivre. Il ne leur souhaite pas de l'or, pas de l'argent. Il ne souhaite pas toute autre prospérité éphémère. Il ne souhaite même pas de la santé. Et combien de fois même nous, on se surprend nous-mêmes, peut-être, ou avec raison, peut-être. On dit, bon, si on a la santé, tout va, n'est-ce pas? Si seulement on a la santé. Et il y a une partie de vérité dans ça, dans un sens. Parce que si ce que tu aimes de tout ton cœur, c'est jouer au hockey, mais tu n'as pas la santé, tu ne pourras pas, n'est-ce pas? Mais ça vient nous ébranler beaucoup plus profondément, parfois, le sujet de la santé. Moi-même, pour avoir perdu ma mère du cancer, je peux le témoigner. Mais même la santé, c'est une prospérité éphémère. Il ne leur souhaite pas ça. Il leur souhaite plutôt la véritable richesse qui ne se trouve qu'en Dieu et qui ne provient que de lui. Ces salutations ne sont pas banales, mais elles sont plutôt motivées par le fondement de notre salut. Et ils ancrent sa requête à Philémon, qui va ensuite développer dans son épître. Il renferme sous son adresse et ses salutations, ce qui enracine son exhortation. Philémon devra se rappeler de la grâce et de la paix qu'il a lui-même obtenue en Christ. Pour en être encore renouvelé, mais pour ensuite octroyer à son tour cette grâce-là et cette paix. Grâce et paix. Quoi demander d'autre que la grâce et la paix? Sérieusement. Quoi souhaiter d'autre à un pécheur rebelle que la grâce et la paix? Quoi souhaiter d'autre à un gracié réconcilié pour continuer sa marche que plus de grâce et de paix? On peut même s'imaginer Paul dire « Oh Philémon, si tu voyais ton besoin de grâce et de paix, la grâce de Dieu qui nous accorde la paix, la faveur imméritée de Dieu qui nous accorde la réconciliation éternelle, ce qui a pour résultat de nous donner la paix. » C'est ce que c'est, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est par définition une faveur imméritée. Ou comme le décrivait Martin Lloyd-Jones, la grâce de Dieu, c'est son amour condescendant. Un amour qui condescend, qui descend du ciel pour venir vers nous. C'est vraiment ce qu'est la grâce. Faveur imméritée, amour condescendant. C'est quelque chose qu'on reçoit entièrement. Je ne peux pas susciter ça moi-même. Ça vient de l'extérieur, d'une autre personne. On n'en est pas la cause. C'est seulement et uniquement reçu. C'est déterminé par Dieu lui-même. Et purement motivé par son amour. C'est ce qu'on vient de lire, en fait, dans Romains 5. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Condescendance de l'amour divin. Ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et en fait, on ne le cherchait même pas. La grâce de Dieu poursuit pourtant ses brebis avant même qu'elles le réalisent. Romains 3 nous dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. On était tous morts dans nos péchés. Et on n'avait même aucun souci de sa grâce. C'est ça aussi. Ce n'est pas qu'on ne la cherchait pas, on ne la voulait pas. Parce qu'en fait, on préférait notre péché. On l'aimait, notre péché. On s'élevait de notre péché. Et on détestait Dieu. Mais la grâce de Dieu, faveur complètement imméritée, condescendance de l'amour divin, nous a été donnée. Et là où la grâce est la base de la réconciliation avec Dieu, la paix en est le but. On peut comprendre la paix comme un synonyme de la réconciliation, mais parce que dans son essence, c'est bien ça, c'est la réconciliation, l'harmonie dans une relation. Mais c'est aussi en soi, ou c'est un état en soi, la paix. C'est pas simplement l'absence de conflit, l'absence de bruit. C'est pas même l'absence de peine ou de douleur. Mais c'est bien plus que ça. C'est premièrement une réconciliation avec Dieu, mais ensuite l'état d'âme qui trouve son repos en lui. Réconciliation avec Dieu et l'état d'âme qui trouve son repos avec lui. Le bénéficiaire de la grâce salvatrice de Dieu est réconcilié avec Dieu. Et ensuite, il obtient sa paix. Comme Martin Lloyd-Jones l'a si bien dit, encore une fois pour le citer, la paix permet désormais au gracié de faire face pour la première fois à sa conscience accusatrice. Si tu as été gracié, tu as été pardonné par le seul qui pouvait le faire. Tu peux donc maintenant te reposer en le seul qui peut te donner cette paix. Si tes péchés sont expiés, leurs accusations sur ta conscience n'ont plus de dents, n'ont plus d'aiguillon, parce que le juste juge t'a justifié. Il ne se repentira pas de sa déclaration. S'il l'a déclaré, c'est éternel. Tu peux maintenant donc te reposer en lui, déposer ton anxiété au pied de la croix. Tu as maintenant accès à son trône de grâce librement. Tu n'as plus à être paralysé de ta conscience qui t'accuse. Tu n'as plus à être paralysé des atrocités du passé, ni celles d'aujourd'hui. Tu n'as plus à être troublé des douleurs d'autrefois, ni celles actuelles. Et il y a certes des cicatrices. Mais comme Ésaïe 53 nous dit, c'est par ses meurtrissures qu'on sera guéri. C'est par ses meurtrissures qu'on est sauvé. D'ici là, viens à lui. Fatigué et chargé, viens à lui. Il va te donner son repos. L'état de paix obtenu par la grâce et la réconciliation avec Dieu peut désormais dire « Mon âme est au repos. » It is well. It is well with my soul. le prédicateur puritain William Gurnall a écrit. La vraie paix est la bénédiction de l'Évangile, et seulement de l'Évangile. Ceci est démontré dans quelques types de paix, qui peuvent être ordonnés ainsi. Premièrement, la paix avec Dieu, que nous pouvons appeler la paix de la réconciliation. Deuxièmement, la paix avec nous-mêmes, ou la paix de conscience. Troisièmement, la paix les uns avec les autres, ou la paix de l'amour et l'unité. Et continue. Et c'est exactement ça dont on parle. En effet, il n'y a pas de grâce ni de paix véritable en dehors de Dieu. Sa source ne se trouve qu'en lui par son évangile. Et un croyant ne peut pas continuellement être transformé par cette grâce, ni marqué par cette paix-là, s'il ne voit pas premièrement de quoi est-ce qu'il a été gracié et comment est-ce qu'il a été réconcilié avec Dieu. On ne peut pas même espérer être en mesure d'accorder la grâce ou d'être un agent de paix d'une manière qui honore le Seigneur si on ne discerne pas pour nous-mêmes ce besoin-là de grâce et de paix. Parce que vous voyez, notre besoin de grâce et de paix prend racine dans la chute de l'homme. Quand le représentant de la race humaine a volontairement péché, toute l'humanité est tombée avec lui. Et la mort a fait son entrée. Non seulement ça l'a eu pour conséquence que tout humain doit maintenant mourir physiquement, mais la mort a aussi été notre aliénation de la présence de Dieu. En d'autres termes, la race humaine est morte spirituellement. L'homme a coupé sa relation avec Dieu, qui, lui, est la vie, en fait. Il a chuté de sa relation avec Dieu à cause de son péché. Et il est maintenant, justement, condamné à la mort éternelle. Il a donc radicalement besoin de miséricorde, de grâce, parce qu'il est radicalement mort. C'est-à-dire que son cœur, le centre de son être, le plus profond qui soit en lui, sa nature, pécheresse, c'est la cause de son inimitié avec lui, avec Dieu. La véritable et éternelle grâce et paix ne s'obtient donc que par l'Évangile, la bonne nouvelle du Fils de Dieu, s'humiliant en prenant une chair telle que la nôtre, par amour et condescendance divine, pour expier le péché de son peuple, le libérer de son esclavage, lui donner une nouvelle nature, lui accorder la réconciliation, le racheter et l'adopter dans sa famille. Ce n'est que par l'Évangile qu'on obtient la véritable grâce et paix. Et le reste du verset 3 nous indique sur quelle base est-ce que ça c'est possible. Ce n'est que possible parce que ça nous provient de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père est désormais notre Père. Il est notre Père parce qu'il nous a unis avec son Fils unique par le sang de la croix. Et non seulement ça, il nous a revêtus des habits du Fils en nous donnant sa justice et il nous fait entrer dans sa famille. Il nous a gracieusement rachetés en payant par le don de son Fils et il nous a réconciliés avec lui-même. Et la grâce et la paix qui nous sont données par Dieu notre Père ne peuvent pas être séparées de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par le Fils que le Père nous a réconciliés. Et c'est par lui qu'on a le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu maintenant. C'est le sang du Fils qui a coulé pour effacer l'acte qui nous condamnait. C'est par la vertu du Fils qu'on est justifié. C'est par la grâce du Fils qu'on a obtenu la paix. La grâce divine, l'amour qui condescend du ciel, est ultimement manifesté par la venue du Fils qui nous apporte ainsi la paix. Et cette profonde réalité-là est imbriquée dans son nom et même son titre. On lit qu'il est Seigneur. Terme qui était utilisé dans le grec pour traduire le nom d'alliance de Dieu, Yahweh. Avant qu'Abraham fût, je suis, n'est-ce pas? Dieu le Père est Yahweh, mais Dieu le Fils aussi est Yahweh. Donc Dieu le Fils est Dieu. Et Dieu le Fils est aussi Jésus-Christ, qui nous rappelle son humanité. Jésus qui veut dire sauveur, Christ qui veut dire celui qui est oint. Il est Dieu fait chair, Dieu homme, s'insérant dans la création pour accomplir notre salut en tant que le représentant du peuple de Dieu et sacrifice parfait, parole de Dieu et prophète éternel, en tant que seul médiateur entre Dieu et l'homme. Dieu est amour, Dieu le Fils aussi est amour. Et Dieu le Fils qui est amour s'est condescendu par amour en son incarnation et sa médiation. C'est lui qui est la grâce qui nous est donnée. C'est lui le prince de la paix. La grâce est donc la faveur imméritée de Dieu et la paix est la réconciliation en lui et l'état d'âme qui en résulte. La grâce qui nous est donnée est premièrement manifestée par la personne même du Christ et nous est ensuite personnellement appliquée par la régénération et la justification. Dans un sens, Dieu fait grâce à toute la race humaine en ce qu'il leur donne la vie, le mouvement et l'être, n'est-ce pas? Mais cette grâce-là ne procure pas le salut. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Toutefois, pour le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur, la grâce leur a été spécialement donnée en ce qu'elle leur procure la réconciliation, la paix. Ces âmes graciées-là et réconciliées sont régénérées et portent l'image de Dieu restituée en étant conformées à l'image du Fils. Ou comme un autre puritain l'a mentionné, Thomas Watson, la grâce est le portrait de Christ dessiné sur l'âme. La grâce est le portrait de Christ dessiné sur l'âme. Âmes graciées et réconciliées sont régénérées et maintenant portent l'image de Dieu restituée, on a dit, et sont confirmées à l'image de Dieu. En effet, la grâce est le portrait de Christ dessiné sur l'âme. Je ne peux qu'en répondre tout à fait et amen. C'est lui qui est notre grâce et c'est lui qui est notre paix. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et cette profonde réalité-là, et les glorieuses vérités qu'on vient de mentionner, ces implications, qu'on voit en fait déjà des versets 1 à 3 de Philémon, sont l'arrière-plan de la lettre de Paul. C'est la fibre même de la requête qui s'apprête à communiquer à Philémon dans toute son épître. Il jette l'ancre avant d'aborder. Et il lui souhaite toujours plus de grâce et de paix pour qu'il soit en mesure de rendre efficace sa foi, comme on lisait plus loin, en portant du fruit pour la gloire de Dieu. Et par la même occasion, il rappelle à Philémon la grâce et la paix qu'il a obtenue de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir plus en détail au cours de cette petite épître-là la manière que Paul ou dont Paul cherche à susciter ce fruit-là chez Philémon, à rendre pratique la bonne doctrine qu'il professe. Mais pour aujourd'hui, de quelle manière est-ce que cette adresse et ces salutations nous concernent? Premièrement, ne passons pas à côté de l'humilité de Paul, à l'exemple du Christ, qui devrait en fait nous pousser à voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, en fait de se revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'humilité, la condescendance par amour. Deuxièmement, en tant que congrégation, reconnaissons la sagesse déployée par Paul dans l'inclusion de la femme de Philémon, un ancien, toute l'assemblée, dans son adresse qui les concerne aussi due à la situation en question, n'est-ce pas? C'est important de noter, c'était pas, comme on l'a dit plus tôt, pour une pression sociale sur Philémon, c'était pas ça le but, mais bien parce que c'était la mise en pratique intègre de l'ordre qui devait être établi dans une église locale. Mais particulièrement à cause de la nature de la requête. Ça ne veut pas dire que toute situation doit être publique. Mais celle-ci, c'était pertinent, c'était nécessaire même. Il faut pouvoir faire la part des choses. Troisièmement, comme on l'a mentionné, Paul ne s'est pas adressé à Philémon en vertu de son autorité légitime en exigeant une obéissance. Bien qu'il aurait pu le faire. Il aurait pu. Mais il a plutôt préféré s'adresser à lui en tant que frère, dans le but de susciter en lui l'initiative de faire ce qui honore le Seigneur. Et d'une manière, ça nous concerne tous, en tant qu'anciens, en tant que frères et sœurs, en tant qu'employeurs, en tant que parents, en tant que mari et tête d'un foyer. Priorisons toujours le bien, la croissance spirituelle de notre prochain. Pas à brandir, peut-être même nos droits, mais l'amour qui condescend. Cherchons à susciter des fruits chez nos bien-aimés, en leur présentant le Christ en toutes choses, et en le représentant adéquatement par notre exemple, et en revêtant les mêmes sentiments qui étaient en lui. Parce que l'obéissance qui provient d'un cœur qui a mûri dans la grâce de Dieu vaut toujours plus qu'une simple obéissance formelle. Toujours. Quatrièmement, comme Paul l'a écrit dans sa lettre adressée aux Colossiens, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Rappelons-nous constamment de la grâce et la paix qui nous ont été donnés de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette base, portons du fruit. Jésus a donné l'exemple dans une parabole d'un homme qui devait une grande dette au roi, vous vous rappelez, mais qui en avait été libéré par pure compassion. Et cet homme-là, après avoir été gracié, s'est retourné vers son prochain, qui lui devait un montant bien inférieur. Et il n'a pas eu compassion. Il n'a pas fait preuve de grâce, même qu'il a été méchant. Il a déshonoré son roi et payé le prix de sa méchanceté. Prenons donc garde de ne pas être comme ce méchant serviteur-là. Que la grâce et la paix obtenues en Christ nous poussent à aimer Dieu davantage et notre prochain en octroyant grâce et paix. Et finalement, et le plus important, permets-moi de te demander, elle va bientôt pouvoir y répondre, pas tout de suite. Permets-moi de te demander, connais-tu la grâce de Dieu? Connais-tu la faveur imméritée de Dieu? L'amour condescendant venant du ciel, la connais-tu? Reconnais-tu ton besoin criant de cette grâce-là? Reconnais-tu ton péché? Ton besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ par qui seul tu peux être pardonné? Est-ce que ton péché accuse ta conscience? Et en accusant ta conscience, te fait trembler devant l'idée de faire face à un juste juge et saint. Trembles-tu? Connais-tu la grâce de Dieu? Si c'est ton cas, cours au Christ. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. confesse ton péché. Place ta foi en lui. Repends-toi, n'attends pas de ton péché. Et reconnais qu'en lui seul, tu peux obtenir la réconciliation. Pose ta foi en lui, qui seul a pu vivre la vie d'obéissance parfaite à la loi morale et éternelle de Dieu. Qui seul a pu payer le prix de tes transgressions. Fuis au Christ. Fuis. Et crois qu'en ressuscitant, il a vaincu la mort. Mais permets-moi aussi de te demander, si tu poses ta foi en Christ seul, reconnaissant que c'est par sa grâce seule que tu es sauvé, connais-tu sa paix? Si tu as une hésitation à répondre par l'affirmative, laisse-moi premièrement te rappeler que la paix qu'on a en lui, en ce présent âge mauvais, ne fait pas fi de ce qu'on vit. La paix dans la tempête autour de nous n'enlève pas les circonstances externes. Elle s'adresse à la tempête interne. Elle te fait dire au milieu de cette tempête-là, « Mon âme trouve repos en toi, Seigneur. It is well with my soul. » Et ceci n'est que véritablement possible par l'âme, pour l'âme qui a été réconciliée avec Dieu. Donc si tu te sais réconcilié avec Dieu, par Christ ton Sauveur, mais que tu luttes dans les profondeurs de ton âme et que tu ne reposes pas en paix. Il y a encore un seul moyen. Fuis au Christ. Fuis au Prince de la paix. Ne te lasse pas de l'Évangile. Contemple les merveilles en Christ. Lui seul est ton pain quotidien. Ton âme est en carence si tu ne te nourris pas de lui. Fuis à lui. Trouve-le dans l'Évangile. Fuis à lui. Trouve-le dans les moyens de grâce. Contemple sa majesté. Fais de lui tes délices. Et alors tu trouveras son repos. Par Christ seul, nous avons la grâce. Par Christ seul, nous avons la paix. Et par Christ seul, pouvons-nous espérer vivre coram Deo et transmettre cette grâce et cette paix à notre prochain, à la gloire de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Père éternel, cette grâce et cette paix, faveur imméritée, réconciliation avec toi, âme au repos. Ce n'est vraiment qu'en toi, par ton Fils. Je te rends grâce, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas au tourment, mais que tu offres encore ta grâce à de pauvres pécheurs, moi qui en ai le premier. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci d'avoir payé le prix pour tes brebis. Merci d'avoir revêtu une chair telle que la mienne, descendu de ton trône de gloire pour être brisé, humilié pour nous. Combien c'est immérité! Les mots ne sont pas suffisants. La valeur de ton sacrifice est éternellement grande. Merci pour ta grâce. Et merci de nous réconcilier avec toi. Moi qui méritais le châtiment, tu m'accordes la paix. Tu m'as transféré dans le royaume qui t'appartient, le royaume de lumière, le royaume de paix. Et Seigneur, bien que nous avons déjà notre citoyenneté là, nous sommes encore ici dans ce présentage mauvais, où parfois il peut être difficile pour tes brebis de voir et de ressentir cette paix. Seigneur, premièrement, je te prie que tous tes brebis qui entendent et qui entendront certainement ta voix soient marqués par cette grâce et transformés aussi pour recevoir cette paix. Premièrement, réconciliation avec toi, mais état d'âme qui trouve son repos en toi. Sachant, Seigneur, que tu intercèdes pour nous. C'est avec foi que je te prie de cette manière. Relève tes brebis. Fortifie-les. Encourage-les. Que ce ne soit pas quelque chose d'éphémère. Mais éternel, comme toute bénédiction céleste qui ne vienne que de toi. Que tous puissent dire, « It is well. » Mon âme est au repos. Et Seigneur, que même dans la tempête, on puisse courir à toi, on puisse fuir à toi, se réfugier derrière toi, te recevoir, se nourrir de toi, être sanctifié, être transformé, et qu'on puisse porter du fruit, Seigneur. Honorant toute chose, que toute chose que nous faisions, en buvant, en mangeant, quoi que ce soit, que tu trouves un parfum qui est doux, quelque chose qui t'honore, qu'on soit un sacrifice vivant pour toi. Sois glorifié, sois élevé. C'est à toi qu'on appartient. Tu es notre paix. Tu es la grâce qui nous a été donnée, notre réconciliation et notre état d'âme ne dépend que de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Christ. Amen.